Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Un truc aussi qu'il faut faire quand on se lance et même après, même si on a moins le temps, c'est accepter de passer du temps avec les personnes qui auraient besoin de nos services. C'est-à-dire que moi, je passe quand même beaucoup de temps à apporter de la valeur gratuitement. Alors, au moment où on fait payer, bien sûr, mais c'est-à-dire que je prends des gens au téléphone pendant un certain temps, pendant peut-être 20 minutes pour travailler un petit peu avec eux sur leur projet. J'apporte des contenus gratuits toutes les semaines. Mmh. C'est en fait, il faut être généreux. Je pense que une des règles du succès quand on est entrepreneur, de la réussite en tout cas, c'est apporter sa touche de générosité parce que c'est ça qui fait que les gens sont rassurés par notre travail.
Tu vas le comprendre très vite, je fonctionne beaucoup avec des petites phrases ou des petites citations. Il y en a une qui parle de ça aussi que j'adore, c'est « plus tu donnes, plus t'es riche ». Et ça, je trouve que c'est incroyablement parlant et c'est aussi un de mes principes fondateurs, c'est quand tu donnes de toi, de ton temps, de ton expérience, que tu crées du contenu, enfin que tu fais des choses pour les autres, il y a forcément un moment donné où ça va te revenir.
Ouais.
Et je pense qu'on... Ça se voit, les gens, quand je discute avec des gens qui ont très bien réussi, il y a forcément une période de leur vie où ils étaient là et ils donnaient de leur temps, ils donnaient de leur énergie pour accompagner les gens, parce que c'est aussi notre première preuve de ce qu'on fait au final.
Bah oui.
C'est notre contenu gratuit, tu parles de contenu gratuit, ta newsletter et ainsi de suite. Si ça c'est qualitatif, je pense que les gens ils se disent « Ah bah tiens, toutes les semaines ça m'aide, imagine ce que ça doit être si je rémunère cette personne pour m'aider personnellement ».
C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a beaucoup de freelances qui ont peur de donner des contenus gratuits parce qu'ils se disent qu'ils n'auront plus rien à vendre. Et en fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu donnes de gratuit, plus tu donnes envie d'aller vers toi. Et ensuite, le contenu payant, ça sera différent puisque ça sera de l'accompagnement personnalisé, en tout cas dans le coaching. Donc, faut savoir que même si les gens lisent tous tes contenus gratuits, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre en place les choses tout seuls.
Ouais.
Parce qu'il leur faut parfois un coup de pied aux fesses.
Entièrement d'accord. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure, parce que je pense que ça peut intéresser un peu mal de gens. Mais on va du coup se lancer un peu sur la thématique du jour.
Ouais.
Tu commençais à toucher ça un peu du doigt en disant tout à l'heure que la manière qu'il faut pour se différencier dans le monde, merveilleux monde du coaching et de l'accompagnement, c'est le personal branding. On va parler de ça justement aujourd'hui, puisque c'est un des sujets sur lesquels tu accompagnes les personnes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du personal branding, parce que les gens ne savent pas toujours ce que c'est?
Ouais. Alors pour moi, en fait, c'est une stratégie de marketing qui permet d'être son propre produit et de se démarquer grâce à sa personnalité, son histoire, ses valeurs et son authenticité, du coup. Et ça nous permet, en fait, de ne pas avoir à démarcher, puisqu'on va pouvoir créer une histoire, un storytelling autour de soi et faire rêver son audience, sa communauté.
Est-ce que tu as lu La Vache Pourpre ?
Non.
C'est un livre que je vous recommande, je le mettrai dans la description du podcast, qui parle un peu de ça, qui parle du fait de cultiver sa différence et son unicité, parce que nous sommes tous bien sûr uniques.
C'est ça.
En tant que personne, donc nous avons aussi, en tant que freelance, une activité et une offre unique. Et le parallèle qu'on peut faire avec ce bouquin, c'est de se dire qui peut être un meilleur moi que moi.
Exactement. Et surtout, ça nous permet de nous différencier au niveau de nos services. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir les mêmes services que moi, mais cette personne n'est pas moi. Et pour moi, le top de la réussite en termes de personal branding, c'est quand quelqu'un va travailler avec toi parce que c'est toi. Qui fait appel à toi parce qu'il il t'a suivi. On parlait de contenu tout à l'heure, de contenu gratuit. Il suit tes contenus, il ouvre toutes tes newsletters, il lit tous tes articles. Et du coup, il a envie de travailler avec toi et pas avec un autre, même si l'autre a peut-être une meilleure réputation. Mais c'est toi qui veux.
C'est m'est déjà arrivé de discuter avec des freelances sur ce sujet, justement, qui me disent... Il y a un client qui m'a écrit, il m'a dit « J'ai envie de travailler avec toi. Je sais pas encore quoi, mais je veux vraiment travailler avec toi. J'adore qui tu es, ta personnalité. » Et du coup, au final, ça montre l'importance de ça. En fait, au-delà de ce que tu fais, il y a plein d'autres choses qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir travailler avec toi. Et je pense que c'est important d'appuyer là-dessus.
Ouais, c'est... En fait, c'est le climat de confiance que tu vas instaurer avec ton auditorat, ton audience, en communiquant régulièrement avec elle. Et c'est ça qui va te donner envie de bosser avec toi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on travaille son personal branding, se connaître, apprendre vraiment à faire ce premier travail introspectif. On va essayer de revenir sur soi, qui on est, ce qu'on aime, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, pour ensuite pouvoir le communiquer. Et c'est en communiquant ces valeurs avec authenticité qu'on va faire la différence.
Et définir notre vision, du coup.
Exactement. La vision, pour moi, elle est carrément importante, puisque c'est comme ça qu'on va voir un petit peu comment on se voit dans 5 ans, qu'est-ce qu'on... Même en étant un petit peu caricatural, mais qu'est-ce qu'on retiendra de soi sur son lit de mort, hein.
Ouais.
Ça nous permet de laisser une trace. Et c'est ça, en fait, le développement d'une marque personnelle.
Tu disais là, juste à l'instant, c'est quoi la vision que j'ai pour moi dans 5 ans ? Je pense que c'est... C'est un point important et c'est aussi un peu le credo que je porte, moi, quand j'accompagne des personnes. C'est de dire, quand on est freelance, on a la liberté de créer son activité professionnelle au service de notre mode de vie. C'est-à-dire, plutôt que de réfléchir comme ça a été le cas pendant très très longtemps, où il faut que je déménage pour mon boulot, où on organise sa vie autour de son travail. Là, on peut organiser son travail autour de la vie qu'on veut avoir. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je m'étais lancé en freelance. Et c'est cette liberté-là, je peux t'en parler un peu de liberté tout à l'heure. Ça, je trouve ça incroyable et c'est pour ça, effectivement, que je suis d'accord avec toi. La vision de comment j'ai envie de vivre au quotidien, c'est hyper important.
Bah, c'est ça, et puis ça te permet aussi de réaliser des projets, des rêves. Moi, tu vois, là, en octobre dernier, je suis partie avec une amie entrepreneur pendant un mois faire un tour d'Europe, dans lequel on a travaillé, beaucoup d'ailleurs, mais on a voyagé, on a optimisé le temps, et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire si on avait été salarié, parce qu'on aurait pu, on aurait dû poser un mois, parce que quel patron, même le plus gentil possible, aurait accepté un mois de télétravail? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment une énorme liberté dont il faut se servir, quoi.
En tout cas, le télétravail, c'est pas encore la norme. C'est ça, c'est clair et net.
Non, j'ai ce souvenir là, ben, quand j'étais salariée, où j'avais réussi à négocier un jour de télétravail par semaine, et je me suis rendu compte que ce jour-là, c'était le jour où on me fliquait le plus. Parce que c'était le moment où on me disait voilà, qu'est-ce que t'as fait de ta journée. Alors que quand j'étais sur place dans les locaux, on me demandait rien. Et là, parce que c'est encore associé dans beaucoup de boîtes au fait de rien faire chez soi, être en pyjama à la maison.
Ouais. Alors que il y a plein d'études sur le sujet, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent maintenant 100% en remote, mm-hmm. qui n'ont pas de locaux et que des salariés qui travaillent chacun dans leur coin à distance. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que on est vraiment beaucoup plus efficace en travaillant chez soi et, comme tu dis, à pas être dans des locaux ou dans des open space où t'es constamment dérangé, où t'as tout le temps des gens qui viennent, où t'as des pauses café à n'en plus finir. C'est assez intéressant de se dire, ben, en fait, pourquoi est-ce que les gens sont tellement attachés à notre présence dans un lieu physique?
À mon avis, ça date d'une vision d'il y a au moins plus de je sais pas combien d'années, mais où à l'époque où en fait la confiance il y avait pas de confiance en fait. Il y avait un pouvoir de flicage qui fait qu'on pouvait maintenir les gens sur place et quand on a commencé à développer le télétravail, eh bien il y a eu une perte de pouvoir sur les salariés et donc ça a été assez compliqué je pense pour certaines entreprises assez traditionnelles d'accepter ça. Et encore, je pense qu'en France, on est en retard par rapport à d'autres pays où ça se fait beaucoup plus.
Ouais.
Mais effectivement, comme tu disais, le problème d'être salarié dans un espace de coworking, c'est que tu es sans cesse dérangé. Moi, je voyais mes collègues qui étaient salariés, mais qui prenaient par exemple une pause clope, une pause machin, une pause machin, une pause. Non, t'es là, mais t'es sur place, mais en fait, t'as pas travaillé des masses. Et puis surtout, le problème aussi qu'on a, c'est que, en tout cas ici en France, c'est que on va associer le temps de travail à la qualité de travail. Alors c'est pas, tu peux travailler 3 heures efficacement et tu peux passer une journée à rien faire. C'est le problème en fait.
Ouais. On va pas passer des heures à taper sur la tête des salariés.
Non, mais... pas du tout.
Mais bref, c'est effectivement un sujet intéressant qui va dans la mutation du monde du travail dans laquelle on se positionne tous les deux, parce que du coup, on fait partie de ce nouveau mouvement des freelances. Je voudrais du coup qu'on revienne sur le personal branding. Mmh. Tu parlais un peu de l'impact que ça peut avoir, le personal branding sur notre vie de freelance. C'est quoi pour toi le plus gros impact que ça peut avoir quand on travaille très bien sa marque personnelle?
De ne pas avoir à démarcher, c'est quand même assez énorme, c'est-à-dire que tu fais venir les gens à toi sans aller prospecter, prendre ton téléphone, les appeler, et du coup tu te places dans un rapport qui est beaucoup plus c'est beaucoup plus valorisant pour toi parce que tu te poses pas dans une position d'infériorité tout simplement. Alors que quand tu vas prendre ton téléphone et que tu vas démarcher, ça va être tu vas être dans la demande et donc du coup on part déjà sur un mauvais rapport.
Ouais, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup quand on est dans des phases de négociation par exemple ou qu'on envoie un devis. Si le client sent qu'on a besoin de lui, on a besoin de cette mission absolument parce que on a qu'un seul prospect ou un seul lead, inconsciemment, ça se sent.
Ouais.
Et inconsciemment, même s'il n'arrive pas à rationaliser pourquoi, la personne en face va se dire, mais attends, il y a un truc qui cloche là.
C'est le problème, c'est pour ça qu'il faut... C'est très compliqué parce que parfois, on peut dépendre d'un client et puis à côté de ça, on sait qu'il ne faut pas le faire ressentir dans la manière dont on va communiquer avec lui. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup de patience.
Ouais.
Parce qu'en fait, au niveau des relations clients, un certain nombre de personnes peuvent te contacter, mais il y en a très peu qui vont signer. Parfois, il faut des mois pour qu'un client soit prêt à signer. Donc là, c'est clair qu'il faut avoir de la patience et de la trésorerie.
Et jouer sur le long terme.
Oui, sinon, sur du court terme, ça ne marche pas.